Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal présenté par Patience Ngalula Mbombo.
Au sommaire de cette édition d'information, le chef d'antenne du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation plaide pour la revitalisation de ces programmes en vue de la pacification après les départs de la MONUSCO. Omar Kavota réagissait ainsi au message du chef de l'État du haut de la tribune des Nations Unies à New York. Fréquence des coupures électriques à Bukavu, le directeur provincial de la SNEL Sud Kivu attribue ses désagréments à l'afflux des déchets plastiques à la centrale de la Ruzizi. Il l'a dit lors d'une visite à la centrale hydroélectrique de Ruzizi 1 ce 25 septembre. Notre invité est le président national de la commission artisanat minier à la Fédération des entreprises du Congo, John Kanyoni Sana, revient sur la mesure du département du travail des États-Unis qui ajoute les cobalt de la RDC à la liste de biens produits par le travail des enfants. Bonjour. Les programmes de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation est un outil à revitaliser pour les tâches de pacification après les départs de la MONUSCO. Ces propos sont du chef d'antenne de Beni du PDDRCS. Il réagissait ainsi au message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, du haut de la tribune des Nations Unies à New York. Pour Omar Kavota, c'est une occasion pour les leaders des groupes armés de s'approprier ces messages de désarmement et démobilisation afin de contribuer à la pacification de la région. Omar Kavota est au téléphone de Marc Marofimbo.
À travers son message du haut de la tribune des Nations Unies, parlant du PDDRCS, le chef de l'État a montré combien de fois il accorde une importance de choix au PDDRCS. Cette stratégie nationale de l'État congolais de désarmement, de démobilisation pour la stabilisation des zones post-conflit, pour le relèvement communautaire des communautés et une stratégie de transition post-MONUSCO. Nous pensons qu'il est indispensable que les acteurs politiques, les leaders sociaux, les leaders des groupes armés s'approprient ces messages pour que le PDDRCS soit effectivement mis en œuvre. Nous demandons également aux membres des groupes armés de se mobiliser pour la reddition volontaire, de contribuer à la paix des provinces de l'Est et de l'Assemblée du pays, parce que cet outil, le PDDRCS, doit être réellement revitalisé. Il doit traduire la volonté de pacifier notre pays, donc que nous puissions y attacher toutes les énergies nécessaires de manière à ce que ces programmes réussissent.
Pendant ce temps, en Ituri, les responsables du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation PDDRCS dans les territoires de Mahagi demandent de moyens logistiques et financiers pour faciliter le désarmement des miliciens. Selon Olivier Mokili, de nombreux membres des groupes armés, notamment la CODECO, sont prêts à déposer les armes, mais l'absence de moyens pour mettre en œuvre cette opération constitue un véritable obstacle. Il s'exprime au micro de Martial Papi Mukeba.
La sensibilisation est avancée. La seule chose qui reste, c'est l'opérationnalisation du DDR, l'effectivité du désarmement, de démobilisation et de la réinsertion de ces combattants qui seront désormais des ex à la vie civile. Les travaux préliminaires sont déjà effectués. La cartographie, les contacts, ainsi de suite. Tout ce qui manque, c'est les moyens financiers et logistiques pour que cela soit effectif.
C'est-à-dire qu'il y a des combattants qui sont prêts à déposer les armes.
En tout cas, je peux vous le confirmer. Même si ce n'est pas la totalité, nous avons déjà des manifestations de volonté. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà établi des ordres de bataille qui nous rassurent qu'une bonne frange de ces groupes armés, ils sont disponibles à se rendre. C'est une demande officielle, déjà aussi exprimée à la hiérarchie.
Toujours en Ituri, la société civile du territoire de Mahagi dénonce l'occupation depuis plusieurs semaines de la localité d'Uriwo dans la chefferie de War Palara par des militaires ougandais. Cette dénonciation a été faite mardi lors d'une rencontre avec le vice-ministre de la Défense en visite à Mahagi à 100 km de Bunia. Selon la société civile, toute personne qui s'oppose à cette occupation est arrêtée par les forces ougandaises. Par ailleurs, trois groupements du territoire de Mahagi sont sous les contrôle des miliciens de la CODECO, rendant la vie quotidienne très difficile pour la population locale. Écoutons à ce sujet Deo Gracias Udaga, les porte-parole de la société civile du territoire de Mahagui. Il est au micro de Martial Papimukeba.
Trois groupements à Mokambo sont quasiment occupés par les bandits de CODECO. Ils ont occupé presque toute la chefferie de Walendouati, mais aussi du côté de Alur-Djouganda. À Warpalara, les UPDF ont envahi la localité de Ouriwo. Et quiconque peut seulement se dire que là, ils sont au Congo, il sera matraqué. Le développement socio-économique est par terre. La population ne sait pas vaquer à ses occupations, parce qu'à tout moment, on s'attend à un pire. Soit on vient vous piller, soit on vient vous violer, on saccage, on brûle les maisons. Que les autorités s'investissent, qu'ils prennent cette situation à bras le corps, qu'ils viennent désarmer les éléments de CODECO et qu'ils viennent voir avec les experts belges ou anglais pour voir comment récupérer nos limites du côté de l'Ouganda.
Suivi du braquage survenu dans la nuit du dimanche à lundi 23 septembre dernier à Kailo, dans la province du Maniema, quatre personnes sont préventivement arrêtées, dont certains officiers policiers et militaires pour raison d'enquête. Ces arrestations interviennent après enquête et descente de la délégation diligentée par le gouverneur des provinces Moussa Kabwankubi Moïse à Kailo Centre. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité qui revient de la zone confirme que la paix règne de nouveau à Kailo, après ces échauffourées où un agent des coopératives Congo Jajin a été molesté et des milliers de francs congolais ainsi que des biens de valeur emportés. Lawamo Selemani Taylor fait savoir que les enquêtes se poursuivent. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
La première des choses était que nous puissions d'abord rétablir l'ordre public parce que lorsque cet incident a eu lieu, la population le matin, les esprits s'étaient surchauffés. Il y avait des barricades déjà qui étaient érigées. Nous, on ne pouvait pas accepter que l'on puisse aller au-delà et surtout qu'on puisse étendre cette réaction même à des innocents. C'est pour laquelle la première des choses, il a fallu que nous puissions d'abord rétablir l'ordre. D'un coup, nous sommes lancés sur des recherches et nous sommes rapprochés d'abord des victimes pour qu'on ait la vraie version, les véritables circonstances de fait. Et d'ailleurs, le nombre a cru de plus de 13 personnes qui ont été visitées. C'était une situation réelle que la population, ces jours-là, avait vécu dans une frustration. On a eu quelques renseignements. Nous sommes en train d'approfondir les enquêtes. Mais déjà là, je vous informe qu'il y a certaines arrestations préventives. Comme j'avais dit là, qu'il n'y aura pas d'électron libre. Tout celui qui va se retrouver sur cette piste va être inquiété pourvu que la population découvre sa Kailo, la situation est redevenue à la normale.
À Bukavu, les fréquentes coupures de la SNEL sont causées par la présence de déchets plastiques à la centrale de la Ruzizi. C'est ce qu'a fait comprendre le directeur provincial de la SNEL Sud-Kivu lors d'une visite à la centrale hydroélectrique de Ruzizi, premier ce 25 septembre. Ceci intervient après les débuts des pluies dont les eaux ont transporté de nombreux déchets vers le lac Kivu et la centrale, perturbant ainsi son fonctionnement. Jovi Mulemangabo invite ainsi la population de Bukavu à la bonne gestion des déchets dans cet extrait sélectionné par Rachel Kiesembango.
Si je vous ai fait venir ici, c'est pour vous montrer la situation, comment elle est en train de s'empirer ici à la centrale. Regardez, tout ce qui a été charrié dans les caniveaux, ils ont terminé leur course ici au barrage de la centrale hydroélectrique de la Ruzizi. Et ça a pour conséquence manque de pression des turbines, parce que la roue qui fait tourner la turbine, elle est sur le même axe avec l'alternateur. Et c'est l'alternateur qui produit l'électricité. C'est pourquoi nous vous demandons, mes chers frères, de dire à la population de laisser de jeter des déchets dans les caniveaux. Comme vous le savez, la ville de Bukavu, c'est une ville montagneuse. Et comme elle est montagneuse, tout ce qui descend des collines là-bas et qui entre dans les caniveaux, eh bien, ça vient terminer leur course ici au barrage de la centrale de la Ruzizi. Donc, l'eau ne peut plus descendre comme il faut à cause de tous ces déchets ici, et les machines ne peuvent plus fonctionner comme il faut. C'est la raison pour laquelle nous demandons à ce que la population puisse voir comment gérer les déchets ménagers. Il y a beaucoup de délaissage parce que les machines ne parviennent pas à tourner comme il faut.
Et puis, la Banque mondiale, en collaboration avec la Régie des eaux, a lancé mercredi à Matadi l'atelier sur les investissements dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. Ceci, c'est dans le cadre de la phase 2 du programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement en RDC, PASEA, un programme initié par le ministère congolais des ressources hydrauliques et de l'électricité à travers sa cellule d'exécution des projets eau. Selon Patrick Ndolo, spécialiste principal en eau et assainissement de la Banque mondiale, le financement de ces programmes est une réponse à la requête de la RDC, laquelle se trouve parmi les pays qui sont moins avancés en Afrique subsaharienne quant à l'accès à l'eau et à l'assainissement. Les points avec Nana Plurichmambou.
Ces assises préparatoires sur la deuxième phase du programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement en RDC, dont le Congo central est bénéficiaire, visent entre autres les échanges sur la mise en œuvre et la réussite de ces programmes. Y ont pris part les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial, les chefs des divisions provinciales de l'administration publique, les représentants de la société civile ainsi que ceux de la Banque mondiale. Patrick Ndolo, le spécialiste principal en eau et assainissement de la Banque mondiale, justifie l'intervention de la Banque mondiale dans ces programmes.
La République démocratique du Congo est considérée parmi les pays qui sont les moins avancés en Afrique subsaharienne quant à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. C'est ainsi que, avec cette requête, la Banque mondiale a montré son intérêt.
Le gouverneur des provinces qui a ouvert cet atelier reconnaît l'urgence dans l'amélioration de la desserte en eau et de l'assainissement de l'environnement dans son entité. Grâce à Nkwanga Bilolo.
La pénurie ainsi que la question d'assainissement de l'environnement sont préoccupantes qu'il faille aller très vite en besoin pour soulager la misère de la population.
Signalons que la première phase de ce projet a été lancée en début de l'année 2024 dans 4 provinces. Matadi, Nana Plurichmambou, Radio Okapi.
Peut-être vers les désenclavements du territoire de Walikale, environ 1000 km de route sur la RN3 seront construits par la société Ngé Service SA. La RN3 qui part de Miti dans la province du Sud Kivu en passant par les territoires de Walikale au Nord Kivu jusqu'à Kisangani, province de la Tchopo. L'axe routier Sakemasisi-Walikale sera aussi pris en compte dans ces projets. Mercredi, le responsable de cette société ont échangé avec le membre de la communauté de Walikale à Goma. C'est pour leur appropriation. Cependant, quelques préalables persistent qui nécessitent l'intervention de la première ministre congolaise pour son lancement. On écoute Kiangi Kiamwami Prince, notable de Walikale qui a pris part à ces échanges. Il est au micro de Denise Lukeso.
Ce projet est porté par la société Ngé Service SA. Il est financé par un groupe de banques ayant son siège à Hong Kong. Le projet est d'un capital de 1,91 milliard pour 1078 km. Cependant, persistent encore quelques préalables pour lesquels je voudrais saisir son Excellence Monsieur le Président de la République ainsi que Madame la Première Ministre et Chef du gouvernement. Ces préalables consistent à obtenir la lettre de confort, une lettre écrite par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics adressée au ministre des Finances afin d'autoriser que les partenaires versent ces montants dans un compte ouvert à la Banque Centrale du Congo. Mais également, je voudrais demander au gouvernement de bien vouloir accepter de donner sa part qui est estimée à 2% du montant total du projet. Voilà pourquoi je voudrais présenter mes remerciements les plus sincères au chef de l'État pour son implication personnelle qui ne fait l'ombre d'aucun doute dans le processus visant à désenclaver le territoire de Walikale afin de contribuer au développement du territoire et de toute la région de l'Est.
Dans la province du Maniema, cette bonne nouvelle pour la population de la commune Alungouli, le pont Mangobo qui se trouve dans un état piteux sera bientôt réhabilité. La confirmation est de la directrice générale adjointe du Fonds national d'entretien routier FONER en séjour au Maniema. Madame Georgine Selemani Toulia a visité le mercredi 25 septembre certains chantiers financés par les FONER pour leur évaluation. La directrice générale adjointe du Fonds national d'entretien routier Georgine Selemani Toulia donne son constat au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes descendus sur terrain pour évaluer les activités du Fonds national d'entretien routier. Le constat pour l'OVD, le travail a été fait à moitié sur l'érosion de Cohydro. Pour les autres chantiers, le FONER s'engage à financer et à clôturer les dossiers de l'OVD. Pour l'office de route, il y a un problème majeur sur la route Kindu-Kasongo. Le pont Mangebo qui a un problème sérieux et le fait de descendre sur terrain sensibilise le FONER à financer en urgence cet ouvrage. Pour l'OVDA, nous n'avons pas eu le temps matériel pour descendre sur terrain, mais nous pensons que le programme d'entretien routier qui est en train d'être élaboré pour l'OVDA sera aussi financé en entièreté en 2024. Mais nous avons demandé au gouverneur de produire un programme ultra urgent que je pourrais rentrer avec pour voir dans quelle mesure nous allons aider la province de Maniema de se désenclaver avec les autres provinces et qu'il y ait visibilité en termes routiers.
Actualité internationale.
Les pays producteurs de cacao demandent à l'Union européenne un délai d'au moins 2 ans supplémentaires pour se mettre en conformité avec le règlement européen sur la déforestation, censé garantir que les fèves importées en Europe ne viendraient pas de parcelles déforestées après janvier 2021. Il doit entrer en vigueur dans 3 mois. Dans leur déclaration signée à Abidjan au siège de l'Organisation internationale du cacao, les pays producteurs jugent que les délais des mises en œuvre sont irréaliste au regard des exigences du règlement allant de la géolocalisation des parcelles à l'établissement d'un système de traçabilité exhaustif.
L'invité.
Notre invité est le président national de la Commission artisanat minier à la Fédération des entreprises du Congo, John Canyon Ninsana, explique la mesure du département du travail des États-Unis qui ajoute les cobalt de la RDC à la liste de biens de produits par le travail des enfants ou les travaux forcés. Il s'entretient avec Grace Amzati.
Monsieur John Canyoni, bonjour.
Bonjour.
Comment la FEC accueille cette décision de l'administration américaine d'ajouter le cobalt de la RDC sur la liste des minerais qui posent problème?
Je voudrais d'abord vous donner une information pour vous dire que c'est une initiative qui a été initiée par le gouvernement des États-Unis depuis plusieurs années. Mais chaque 2 ans, ils font en fait ce qu'on appelle une évaluation et ils mettent. Mais il n'y a pas que le cobalt. Hein. Pour la RDC, on parle du cobalt, on parle du cuivre, on parle des 3T, c'est-à-dire l'étain, le tungstène et le coltan, mais on parle aussi de l'or. Mais je voudrais vous rassurer aussi que ce n'est pas quelque chose qui concerne uniquement la RDC. Donc, si vous lisez un peu les rapports et que vous allez en profondeur, vous vous rendrez compte qu'il y a aussi beaucoup d'autres secteurs qui ne sont pas nécessairement les mines, comme les cafés, les tabacs, l'élevage et même les cotons dans d'autres pays. Mais on va rester focalisé sur la décision qui a été prise chez nous. Alors pour nous, naturellement, c'est une question qui nous préoccupe et nous allons voir un peu dans la mesure du possible comment on va travailler avec notre gouvernement et particulièrement le ministère du tutelle qui est le ministre des Mines. Mais nous devons travailler sur 2 volets. Améliorer effectivement cette image qu'on s'est fait par rapport à un secteur qui est considéré comme le poumon de notre économie. Et nous ne sommes pas pour autant préoccupés, mais nous devons plutôt voir dans quelle mesure on devrait répondre à ces questions-là à travers un cadre déjà qu'on a mis en place, qui est celui de l'OCDE, qui effectivement répond à toutes ces questions-là.
Et qu'en est-il exactement? Parce que lorsqu'on parle du cobalt de la RDC qui est ajouté sur la liste des biens produits par les travaux forcés ou le travail des enfants, qu'est-ce qu'on veut dire concrètement par là?
En fait, il y a une initiative, hein, si vous me permettez, peut-être je vais le dire en anglais, qui s'appelle Trafficking Victim Protection Reauthorization. Et chaque fois qu'il y a assez d'indications que dans un secteur bien précis, il y a soit le travail des enfants ou le travail forcé, ça pose problème. Et pour ce qui nous concerne, à l'époque, c'était uniquement le secteur artisanal qui était concerné, mais cette fois-là, il y a une extension même vers le secteur industriel. C'est pour ça que c'est une question qu'on ne devrait pas prendre à la légère. Nous devons, nous-mêmes, comme secteur minier, nous rassurer effectivement que dans nos activités, il n'y a ni le travail des enfants, ni le travail forcé. Mais au-delà de cet aspect-là, il y a de plus en plus des règles, comme on dit, des conformités auxquelles sont soumises pratiquement toutes les entreprises, quoi. La liste, elle concerne plusieurs pays. Mais je ne suis pas pour autant préoccupé. Pourquoi? Parce qu'avec les États-Unis, nous avons mis déjà en place des mécanismes de travail, surtout sur les secteurs comme celui-là qui est un secteur privilégié. Il ne faut pas oublier que nous sommes le premier producteur mondial du cobalt, même si les prix ont baissé. Mais on ne pourra pas parler de la transition énergétique sans parler de nous. Et d'ailleurs, les chefs de l'État en marge de l'Assemblée des Nations Unies à New York a reçu le sous-secrétaire d'État américain en charge de la croissance économique, de l'énergie et l'environnement. Et je suis sûr que cette collaboration qu'il y a déjà entre les deux États nous permettra peut-être de surmonter cette crise qu'on va traverser.
Est-ce que cette mesure n'a pas ou n'aura pas des conséquences sur l'économie du pays?
Non. Il faudrait que je sois très clair. Il est possible en effet qu'un pays soit retiré de cette liste-là. Et pour le moment, cela ne veut pas dire que toute cette production ou nos marchandises seront automatiquement arrêtées aux frontières, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis. Mais cela augmente effectivement cette probabilité-là qu'on puisse faire l'objet d'un examen plus approfondi des consommateurs finaux de nos produits. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait une confusion en pensant qu'il y a déjà un embargo sur nos produits. Non. On nous alerte pour dire que nous devons, comme on dit, améliorer notre chaîne d'approvisionnement et le faire de manière responsable.
Qu'est-ce qui doit être fait par le gouvernement congolais, notamment pour que cette question des travail forcé ou des travail des enfants dans les mines soit résolue afin d'éviter le pire à l'économie de la RDC?
D'abord, la responsabilité première, elle n'est pas celle du gouvernement, elle est celle des entreprises, donc elle est la nôtre. Mais bien sûr, si on prend les contextes actuels, surtout dans les Lualaba et les Haut-Katanga, on se rend compte effectivement qu'il y a aussi quelques sites miniers qui sont envahis par des exploitants artisanaux défaits, de manière défaite. C'est là que je pense qu'il faut qu'on travaille étroitement avec les gouvernements pour trouver des solutions. Et les gouvernements ont des départements spécialisés pour adresser ces questions-là. Mais bien sûr aussi, nous pensons qu'il est aussi important aussi qu'on y associe la société civile, notre société civile.
John Cagnoni, je vous remercie.
Je vous en prie.